à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Donc vendredi, qui dit vendredi dit musique.
Ouais.
Et au programme d'aujourd'hui, donc on reçoit l'auteur, compositeur, interprète Joseph Bounen. Bonjour Joseph.
Salut, ça va bien?
C'est ta première visite ici, alors bienvenue à toi.
Merci beaucoup.
Et puis tu nous présentes ton album, ton EP à venir qui s'appelle, dont le titre va être Aphélie, c'est
ouais,
ça?
Ouais, exactement.
Donc, notre chroniqueur Thibaut de Corta est avec nous et il nous parle de la bande dessinée québécoise au travers de Julie Ducey, Valium et Michel Viau. Alors, pour l'instant, ben, on va t'écouter, Joseph, en train de chanter « Bon garçon ».
Je veux me réveiller et t'embrasser. Je veux me coucher et te coller. Je veux partir et ne plus revenir. J'ai envie de toi et c'est comme ça. Ça fait longtemps que je t'attends. Je vais pouvoir enfin prendre le temps de t'amener souper en tête à tête, ou peu importe qu'on fasse la fête. Je vais te faire bouger, je vais te faire pleurer. Tu vas voir, ça sera une super soirée. Tu vas t'en rappeler quand on sera vieux. On peut se saouler, se mettre à gueuler ou se décrisser. Proche du parc Laurier, ils nous regardent en travers. Ils seront en colère, mais on s'en fout, on ira jusqu'au bout. Je veux me réveiller et t'embrasser. Je veux me coucher et te coller. Je veux partir et ne plus revenir. J'ai envie de toi et c'est comme ça. L'écriture, c'est pas pour moi de la lecture. Moi je fais pas ça, mais je t'écrirai des poèmes. Mais je te dirai que je t'aime. Je garderai en mémoire tout plein de bonnes histoires. J'ai pas besoin de grand chose, juste un peu d'amour. Et je t'assure qu'on en fera vite le tour. Tu pourras plus marcher, tellement qu'on se sera amusé. Peut-être qu'on fera ça dans l'auto, ou peut-être bien dans ma chambre. Ou peut-être que c'est un peu tôt pis qu'on va juste attendre. Mais t'inquiète pas ma belle, je ferai attention. J'ai peut-être l'air un peu con, mais j'suis un bon garçon. Je veux me réveiller et t'embrasser. Je veux me coucher et te coller. Je veux partir et ne plus revenir. J'ai envie de toi et c'est comme ça. Je veux me réveiller et t'embrasser, je veux me coucher et te coller, je veux partir et ne plus revenir. J'ai envie de toi et c'est comme ça. Oh, oh.
Plaisir. Dis-moi que, parce que pour moi, un bon garçon, tu sais, c'est un garçon qui dit toujours oui, qui est toujours trop gentil. Mais non, tu dois avoir des côtés sombres. Rassure-moi.
Absolument, absolument. Même que je dirais que être un bon garçon, c'est aussi être galant, puis être autre chose que avoir du plaisir, puis avoir envie de jouer. Là.
Parce que cette chanson-là, elle représente quoi? Une chanson pour un premier amour ou les fois où on... Enfin, quand je dis premier amour, même... Première rencontre?
Moi, je dirais vraiment, c'est juste pour le plaisir. Cette chanson-là, c'est vraiment pour le plaisir. J'écrivais des chansons compliquées. J'avais une idée en tête que je voulais faire, mais j'étais incapable de la mettre sur papier. J'ai pris ma guitare, j'ai envie d'écrire une chanson d'amour, de désir, de summer vibe un peu. Puis c'est comme ça que bon garçon.
Ben, c'est bien une chanson de désir. Parce que ça fait partie de la vie, donc il est bon qu'on le sache aussi.
Oui, puis, mais celle-là, sur le désir, est très, très facile d'approche. C'est pas une chanson avec beaucoup de métaphores, puis de derrière, là, t'sais, c'est simple comme ça, comme elle a été faite.
T'as eu un prix, là, quand t'étais étudiant,
oui,
une chanson qui s'appelle, redonne-moi le prénom.
Annie.
Oui, Annie. C'est vachement bien.
Annie,
j'ai regardé la vidéo, c'est fort comme chanson.
Ben, merci beaucoup, ouais, c'était secondaire en spectacle, je m'étais rendu à la finale régionale. puis même au punk québécois.
J'ai regardé la vidéo, alors je sais pas ce que ça donne juste en audio, mais en tout cas, avec la vidéo, avec le mec qui a fait les dessins, là,
c'est une fille...
très, très porteur, hein, très... Ça donne beaucoup de...
Mais je suis content de l'entendre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, juste en entendant l'audio, pensaient qu'Annie, c'était une personne, une fille à qui je déclarais genre ma flamme. Ou... Alors que dans ma tête, c'était assez imagé comme chanson, oui. Où je parlais justement de la terre, je lui donnais un nom. Puis ouais, non, c'est vraiment un beau projet que j'avais réalisé avec Josquin Beauchemin, qui est une super dessinatrice et c'était vraiment très cool.
Elle a beaucoup de talent aussi parce que les deux ensemble, ça donne vraiment des belles... Les images... font prendre encore plus d'importance aux paroles qui sont dites là-dedans.
Je suis très content de l'entendre. Elle va d'ailleurs faire aussi son prochain EP dessins. Ouais. Je travaille avec elle en ce moment pour la chanson Aphélie.
Alors, d'abord, Aphélie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce titre?
L'Aphélie, c'est dans un orbite. Ça se trouve être le point le plus loin de l'orbite. Quand la Terre est à l'Aphélie de son orbite, ça se trouve être le plus loin du Soleil.
Puis,
je trouvais que c'était une super belle métaphore pour mon projet parce que il faut prendre un peu de la distance quand on veut écrire des chansons sur soi-même. Puis il a vraiment fallu que je me mette un peu à l'Aphélie de mes pensées pour parler de moi puis de extérioriser ce que je ressentais.
Ben, joli pour une fois qu'on reçoit un chanteur intelligent. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai pour les autres, je les adore. C'était... Non, mais c'est une bonne... C'est une bonne explication. Je n'ai pas recherché exprès parce que je voulais que tu nous l'expliques et que tu nous dises le pourquoi de tout ça. Tu as déjà fait un premier EP.
Ouais.
Comme un ours. Avant qu'on soit en...
Ouais, c'était un premier projet, là, ouais.
Et maintenant, tu es là-dessus, donc tu prépares six chansons. Est-ce qu'elles sont déjà prêtes? Parce qu'elles sont censées sortir la semaine prochaine.
Exactement. Ouais, donc... tout est fini depuis genre 2 mois. Envoyé, j'attends juste de récolter le fruit de ce que j'ai fait.
Comment ça s'est passé? Quel a été ton fil conducteur de cette histoire?
L'expérience, tout était nouveau pour moi. Ça faisait longtemps que j'y réfléchissais. Après mon premier projet comme un ours, justement, je voulais me relancer dans un projet comme ça, mais j'avais ni l'argent, ni le temps, ni les connaissances pour le faire. Puis je préparais un voyage en Nouvelle-Zélande avant que la COVID arrive. Puis quand elle est arrivée, ça m'a juste donné une occasion. Je voulais connecter, je voulais faire des liens. Puis la musique, ça a toujours été ça pour moi. Fait que je me suis lancé dans ce projet-là il y a 2 ans. Je me suis dit, OK, là, je me trouve un réalisateur. Je veux amener mon projet le plus loin possible. Je veux que mes chansons soient parfaites. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Alors, moi, j'ai lu quelque chose qui m'a assez surprise. C'est que tu as toujours été plongé dans la musique. Mais dans des chanteurs, Bob Dylan, Charles Aznavour, t'as quel âge? T'as 20 ans?
J'ai 21 ans. Ouais.
21 ans?
Yes.
C'est des chanteurs...
un peu plus vieux?
J'ai envie de dire oui.
Mais oui, mais en même temps...
Mais c'est
temps...
bien d'avoir de la culture musicale, c'est bien. C'est pas un reproche, c'est juste que quand je l'ai lu, ça m'a un peu... J'ai dit, ah oui, je pensais que t'allais avoir des... comment dirais-je? Des liens musicaux avec des gens plus...
Proche, ouais.
Proche de ton âge.
Ben, je pense que tout commence de la francophonie en général. Je suis un grand, grand, grand passionné de tout ce qui est français québécois ou français-France. Puis mes parents m'ont toujours mis dans un univers de musique très, très, très varié. Là. Mon père, qui est justement de la Hollande, écoute plus du rock, les Beatles, Bob Dylan et compagnie. Tandis que ma mère, elle, c'est les vieux classiques francophones, Charles Aznavour, Brassens.
Puis, ah oui,
ça a tout été ça, mon univers de musique. Puis c'est sûr que aussi j'ai des influences plus modernes ou de notre époque, mais c'est un mélange de tout, là, vraiment.
T'as fait quoi dans ton écriture? Ça t'a aidé dans ton écriture? Parce que j'ai lu que t'écris depuis tout le temps.
Oui, absolument.
Depuis que tu écris, t'as toujours eu envie d'écrire.
Exactement.
Quand les filles, elles font des carnets, tu sais, des journaux particuliers. Ouais. T'as eu un journal, toi?
J'en ai un. Puis, c'est d'ailleurs, on parlait tantôt de quand est-ce que je m'y suis mis. Puis exactement le 19 octobre 2019, je le sais parce que je l'ai vu dans mon journal, je l'avais écrit, c'est là que je me lance à mon deuxième album. Puis ouais, non, j'écris vraiment beaucoup dans la vie.
Qu'est-ce que t'as fait comme études? T'as pas vraiment fait des études de musique, tu t'es placé là-dedans, enfin, t'as aimé ça puis t'as appris par toi-même?
Ouais, exactement. Beaucoup. Puis ouais, j'ai pris des cours un peu de guitare, quelques sessions de chant, mais en musique en général, c'est plus par moi-même. Sinon, je suis à l'université en développement durable à McGill.
D'accord.
Puis, ouais.
Développement durable?
Ouais, en business.
T'as rien à lui dire là-dessus, ben, Thibaut?
J'écoute. C'est intéressant.
C'est un super beau programme, d'ailleurs. C'est de la business, mais vraiment avec une partie à venir en communion avec la Terre.
Mais c'est quoi la business en tant que tel?
Ben, la business, on parle de consommation, on va parler de marché, de marketing aussi. C'est ma première année, fait que dans la spécificité, mettons, de comment on va faire pour avoir un marché durable, je ne suis pas encore rendu là. Mais juste les enjeux environnementaux, j'ai des cours d'éthique sur l'environnement, j'ai des cours de philosophie.
C'est bien ça!
Ouais,
j'ai une question pour toi. Est-ce que tu crois qu'on va s'en sortir?
Vraiment? Pour vrai, ouais.
Oui? Écologiquement parlant, tu penses?
Je serais pas là, ni à étudier, ni aussi heureux dans la vie, si c'était pas que je pensais qu'il y avait de l'espoir.
Parce que moi, j'ai lu un texte qui parle, par exemple, de la production du plastique en général, qui, semble-t-il, va doubler d'ici les 10 prochaines années.
Tout ça, c'est possible, mais moi, la manière que je vois l'enjeu environnemental, puis je pense que c'est un peu comme ça qu'on devrait tous le voir, c'est que si on se dit qu'on va frapper le mur, c'est sûr qu'on va le frapper. Puis dans tous les cas, peut-être qu'un jour, on va le frapper, mais c'est à quelle vitesse on va le frapper, puis c'est quand. C'est vraiment là qu'il n'est pas trop tard, puis il ne sera jamais trop tard. T'sais.
OK, ouais.
Puis on peut ralentir justement le développement, puis il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'espoir aussi, parce que justement, il y a de l'argent à faire en aidant l'environnement, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors,
ça, c'est intéressant, ouais.
Ouais.
Juste au recyclage.
Ouais.
Il va se préparer parce qu'il va nous chanter une chanson.
Ouais.
Va prendre sa guitare. Et puis, on va en reparler. Mais c'était très intéressant, tiens, que tu nous parles de tes cours et tout, parce que ça valait le coup. Ça t'inspire aussi pour tes textes?
Oui, beaucoup. Sur cet album-là, par contre, je ne l'ai pas tant mis de l'avant. Dans le sens que la nature, en général, c'est inspirant. Les mots de la nature aussi, je trouve ça beau, c'est imagé. Mais c'est moins un album où je dénonce, mettons, des choses. VS, le premier projet où c'était plus ça, engagé, là, c'est vraiment plus mon univers dont je parle.
OK. Alors, tu vas nous interpréter quoi?
Paysage.
Paysage, tiens, mais ça tombe bien. Donc, vas-y. Est-ce que tu as besoin qu'on t'amène le micro vers la guitare ou ça va aller comme ça?
Je pense que ça va aller.
Alors, on t'écoute. C'est à toi.
Allez.
Le souffle des choses émane de la terre. Un secret qui garde ses réponses. Devons-nous absolument percer le mystère de la quête du chemin qui nous dompte? Et si on peignait le monde dans un bordel, il me semble que l'on y verrait mieux. Que le désordre nous emporte, que la pagaille nous réconforte, car le hasard ne peut s'être heureux. Il me semble que le monde serait tellement plus simple à imaginer, sans idéal et sans loi. Il suffirait simplement de dessiner n'importe quoi. Et si on peignait le monde dans un bordel, il me semble que l'on y verrait mieux. Que le désordre nous emporte, que la pagaille nous réconforte, car le hasard tavern. Il m'arrive parfois d'arroser mon bonheur d'une pluie de larmes, de peine et de douleur. Car il n'y a qu'en mélangeant les couleurs que peuvent exister un paysage où toutes les fleurs peuvent pousser. 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 Si on peignait le monde dans un bordel, me semble que l'on y verrait mieux.
Merci. Un paysage où toutes les fleurs peuvent pousser, moi, ça me donne l'image de laisser libre cours à toutes les personnalités qui font partie du monde, c'est-à-dire accepter la différence. C'est une chanson qui me fait penser à la différence et à ce qu'on peut mettre dedans, justement.
Puis le nom à qui, je pense. Mon premier, cette chanson-là, au début, c'était vraiment une chanson sur la COVID où je parlais de... comment tout est déstabilisé, comment tout n'est pas normal, comment je me retrouve dans un monde où je ne sais pas quoi faire. Puis là, j'ai eu une espèce d'illumination. Ça l'a fait comme, mais la vie, c'est comme ça.
Oui.
C'est ça qui fait que c'est beau. C'est les surprises qui est comme, ah, oh, tu sais pas à quoi t'attendre, puis là, ça arrive, puis là, waouh. Puis, fait que c'est pour ça. Je me suis dit,
on va... Tu peux changer, c'est vrai, tu peux changer, puis trouver une autre solution. Tu n'es pas obligé de faire...
Non.
Comme l'expression consacrée ici du chialage.
Non, puis on peut pas s'attendre non plus, toujours prévoir ou toujours avoir des choses qui vont être acquises. Tout bouge, tout est en mouvement. Fait que c'est normal de genre vivre là-dedans. Puis c'est pour ça que je disais que je pense que de vivre dans un monde où tout peut pousser, où le hasard, le bordel, c'est normal, puis c'est ça qui fait que c'est beau, ben c'est inspirant. Puis voilà.
C'est vrai, c'est inspirant de le penser comme ça. Comment tu vois ton métier maintenant? J'ai l'impression qu'il y a des choses qui changent pour les auteurs, compositeurs, interprètes ou même pour les interprètes. Enfin, il y a des choses qui ont bougé pas mal avec tout ce qui s'est passé depuis 2 ans. Est-ce qu'il y a des changements qui se sont faits dans ta tête dans...
J'ai comme 2 manières de voir cette question-là. Je trouve qu'il y a soit une partie plus économique. On regarde, mettons, que ça soit beaucoup passé sur les réseaux sociaux, sur la connexion
Internet. Vrai.
Ça, ce côté-là, je trouve ça plus difficile. Mais sinon, d'un autre côté, pour moi, la musique, c'est vraiment pour le plaisir. C'est pour m'exprimer. Fait que quand j'écris, puis que je peux la jouer, puis réaliser mes rêves, comme justement être capable de la jouer en studio, puis d'être ici aujourd'hui, ben je me suis accompli. Là. Fait que mon métier... pour moi, c'est résume à être capable de partager ça aux autres d'une bonne manière. Puis je trouve qu'avec toutes les plateformes et les réseaux, ça se fait aussi quand même facilement.
Mais ça ne vaut quand même pas le contact d'être sur scène avec du public.
Oh, absolument pas. Absolument
pas. N'est-ce pas, Thibaut?
Ouais, ça.
Ça manque, là, vraiment. Ça serait mon prochain step, en fait. Vraiment, ce serait d'être capable d'aller sur une scène puis de me produire.
Est-ce que tu en as déjà fait pour l'instant?
À part pour des concours ou pour des petits... même pas des festivals, genre des galas, non, jamais. Vraiment juste des concours, des galas.
Et est-ce que tu as une formation, un band, un groupe?
Ouais, j'avais un band, on jouait mes chansons.
Ouais.
Puis justement, il n'y a pas longtemps, on essayait de regarder pour le lancement de mon album, de se trouver une salle puis tout ça, mais avec la COVID, tous les spectacles qui ont été...
Mais où tu voudrais lancer ça, idéalement, à Montréal?
À Montréal, ouais. C'est sûr.
T'as pensé au Quai des Brumes?
Le Quai des Brumes, c'est très possible. Je
ça,
sais
c'est
pas
un
si
bar
on...
mythique.
Mais son agent qui est là à côté, qui ne veut pas parler, est tout à fait... connaît bien le Quai des Brumes.
Oui, c'est sûr.
Mais si c'est là-bas. La salle qu'on m'a référée... en fait, j'ai vraiment envoyé mon projet à plein de gens.
Okay.
C'est surtout que toutes les salles, en ce moment, sont bookées depuis 2 ans de projets qui se reportent,
C'est évident.
Fait pour avoir une scène, même dans des bars, là, justement, là, je regardais proche de McGill, là, où j'étudiais... Puis tous les bars étaient comme, on est booké pas mal tout l'été, là. À part, mettons, un lundi soir, mais pour un lancement d'album, j'étais comme, je vais faire un projet. Ce que j'aimerais faire cet été, ça serait d'aller jouer dans un parc.
D'aller jouer dans un parc? Ah oui?
Ouais,
c'est une bonne idée?
Mais je pense que oui. Je pense que justement, ça va bien avec mon projet. Ça va être dehors, ça va être facile, ça va être pour tout le monde. C'est étudiant, tu sais, j'ai pas un gros budget non plus, puis ça va être le fun.
Là, maintenant que les contraintes se libèrent un peu... ça donne le goût aux gens de sortir, en excès peut-être, mais de sortir en tout cas, de sortir un maximum parce que ça fait trop longtemps que
ils
ne pouvaient pas le faire. Donc,
puis juste toutes les industries qui ont souffert, les restaurants, je trouve que ça vaut la peine, puis c'est beau à voir. Là. C'est un peu comme quand on est sorti de la grande morceur là, avec l'expo.
Ça ressemble à ça.
Tu sais qu'à Montréal, juste à Montréal, il y a 1000 restaurants qui ont fermé. Définitivement.
1000 restaurants
qui ont
fermé? Oui. Oh mon Dieu, c'est grave, hein?
Ouais.
C'est grave. Est-ce que tu as des textes dans tes tiroirs? D'autres textes que ceux que...
Énormément. Beaucoup de mauvais, mais il y en a des bons aussi.
Ouais, mais qu'est-ce que tu en sais?
Il faut
déjà que tu les lises à d'autres pour savoir s'ils sont mauvais ou bons.
Juste dans l'intention, juste dans mon attachement avec certains textes, je le sais que c'est pas... T'sais, moi, mettons, il y a des textes que je vendrais beaucoup mieux que d'autres. Puis c'est pour ça que, mettons, je vais dire que je pense qu'il y en a qui sont moins bons. Parce que ces textes qui sont moins bons, autant j'ai moins d'affinité avec, autant dans la production, j'ai probablement, je m'y suis moins attardé. Mais c'est sûr que oui, j'en ai vraiment plein d'autres. Là.
Comment ça se passe? Tu les fais écouter?
Non.
Non?
Non, je joue.
Tu juges toi tout seul de ce que tu as fait? Tu as quand même un public ou familial ou de travail avec qui t'écoute et qui te donne leur avis là-dessus, non?
Absolument, absolument. J'ai des amis qui me disent « Ah, ça, c'est une bonne chanson ». Mais mettons, pour ce projet-là, ça a vraiment été dans le moment. J'avais 10 chansons que je voulais produire. Finalement, j'en ai produit 6. Puis ça a été, dans le moment, la chanson que j'avais vraiment envie de mettre sur papier ou sur écoute. Là, ça s'est vraiment passé comme ça. Là.
C'est bien parce que ça veut dire qu'entre le tout premier EP que tu as fait et puis les 4 chansons qui restent en supplément, tu as de quoi faire une scène.
Oui, absolument. Oui, oui. Puis j'en ai d'autres. Là. Je pourrais repartir en studio en fait, cet été, je pense. Là, j'aurai assez de chansons.
Et toi, niveau musical, tu nous as dit tout à l'heure tu jouais seulement de la guitare?
Ouais. Un peu de piano, mais juste pour le fun.
Donc, pour le reste, pour enregistrer, tu auras besoin d'autres instruments et d'un band, quoi.
Ben, avec mon réalisateur, on est assez bon pour justement aller sur des synths. Genre, on utilise des sons qu'on met sur un piano, puis là, après ça, on peut aller vraiment loin, puis dans plein de diversité de sons. Fait que c'est vraiment...
On peut faire avec la technique.
Ouais, exactement. Puis j'ai beaucoup d'amis aussi, musiciens, qui viennent. Puis là, souvent, je le fais en voix. Je suis comme, pourrais-tu me faire ta la la la? Puis là, il va le faire au violon. Puis ouais, ça se passe vraiment la plupart du temps comme ça.
Donc, on peut trouver tes chansons. On va pouvoir les trouver, pardon, parce que c'est à partir du combien?
25. Le 25 mars, vendredi prochain.
J'allais dire le 22. On va pouvoir les trouver sur toutes les bonnes plateformes?
Oui, absolument partout.
Puisque Simon, il ne veut pas nous parler.
Ça va être partout. Puis il y a des belles surprises qui s'en viennent aussi avec ce projet-là, là, justement en collaboration avec Josquin Beauchemin.
Et est-ce que tu sors aussi sur support physique ou seulement...
Non, j'aimerais vraiment ça, mais entre autres parce que je me produis de A à Z tout seul.
Ouais, ça coûte des sous.
Ça coûte non seulement de l'argent, mais après ça, le retour sur ton investissement est pas très grand.
Ouais.
Puis le risque, je me suis dit, j'aimerais vraiment ça. Ça fait aussi partie de mon rêve là, de pouvoir, mettons, le jouer sur un vinyle même. Mais ça va venir avec le temps. Là.
Ouais, ouais.
Ça serait bien. Puis comme ça, comme ton amie fait des dessins magnifiques, elle pourrait te faire la pochette de ton album.
Elle n'a pas fait la pochette. J'ai d'autres amis tout aussi talentueux et talentueuses qui ont fait mes pochettes. Mais elle va vraiment faire un truc cool. Ça va être un canevas sur Spotify. C'est comme un 8 secondes en loop. C'est un petit dessin animé, là, ça va vraiment être sympathique.
Waouh, t'as plein de choses à montrer. Et si c'est sur scène, cette espèce de petit dessin animé, il passerait derrière toi, par contre, pendant que tu chanterais?
C'est sûr que oui, là. Oui, oui.
Ouais.
Elle, d'ailleurs, c'est ça qu'elle avait fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés à secondaire en spectacle. Elle faisait un slam et elle avait derrière elle une projection qu'elle avait elle-même dessinée et c'était génial. Fait que je l'avais approchée okay. pour ça.
Eh ben merci beaucoup. Est-ce que tu restes avec nous pour écouter
oui,
un peu parler des bandes dessinées?
Oui, absolument, ça m'a fait plaisir. Merci à vous.
Eh ben écoute, ah ben oui. Là, on part donc avec ton autre chanson, ton âme de la rive, c'est ça?
Yes.
Où on t'entend un petit peu plus tendre là-dessus.
Je suis l'homme de la rive et toi ma compagnie. Il m'arrive quand tu dérives de voir le monde en gris. Nous étions tant frivoles, la liberté à son envol. Mais il m'a fallu briser la vague qui nous a emportés. Il faut que tu battes tes ailes, même si le soleil n'est plus là. Notre valse sera immortelle, mais la tempête approche à grands pas. Le brouillard sans savoir finira bien par passer, en portant avec lui la vague qui nous a blessés. Je regarde la mer dans le silence, où se déchaînent les éclairs qui allument mon impuissance. Tes doigts me manquent, le tableau se décompose, et pendant que la marée monte, ma tête, mon cœur explosent. Il faut que tu battes tes ailes, même si le soleil n'est plus là. Notre valse sera immortelle, mais la tempête approche à grands pas. Sans savoir, finira bien par passer, en portant avec lui la vague qui nous a blessés. Les arbres tombent pour bâtir. Saisir que rien n'arrive pour rien. Le courant est différent sans toi à mes côtés. Rien n'est plus comme avant. L'aube est froide et trop salée. L'aube est froide et trop salée. Je suis l'homme de la rive et toi ma compagnie. Il m'arrive quand tu dérives de ne plus croire en la vie.
Alors, dans une minute, on va avoir droit à la bande dessinée. Donc, vous restez avec nous, les garçons. Et c'est Thibaut de Corta qui va nous parler des bandes dessinées, comme d'habitude.
Eh ouais.
Donc, restez avec nous. Dans un instant, on continue à en parler. Et puis, cette fois, c'est à lui qu'on pose les questions. À tout de suite.
Écoutez les Faramineux avec Arlette Farah.
Hier soir, c'était pas la gloire. Puis hier matin, c'était encore la même histoire. Un petit remontant sur McDonald's pour toffer jusqu'à Robertval. Après ce show-là, juste qu'on s'en va au festival du break à bras. Un show de boucan au fond du bois. Un café frais, une bière tablette. Fais-toi-en pas, tu vas t'en remettre. La route est longue jusqu'au top. Et si tu veux faire du rock'n'roll, courailler sa galère à tous les soirs. La route est longue jusqu'au top, tu ferais mieux de rester à l'école. J'aurais dû goûter ma mère en désespoir. Toute une vie entre les dépanneurs, sur des chemins que je connais par cœur. Ben du millage, une coupe de scène. Merci, bonsoir, bien à la prochaine. Pack les guitares et puis on porte. Tiens ça à côté jusqu'à Val d'Or. Ta poche, tu le fais, il est pas trop tard. Les chums sont pas reposant dans le nord. On dormira rendu l'autre bord. La route est longue jusqu'au top, si tu veux faire du rock'n'roll, courailler sa galère à tous les soirs. La route est longue jusqu'au top, tu ferais mieux de rester à l'école. J'aurais dû goûter ma mère en désespoir. La saison, retourne à la maison, retourne à désintoxication. Une coupe de mois barré dans le chac, ça devrait bien me remettre sa traque. Mais c'est pas le party sur le vieux gagné, avec les flots, les billes d'hydro, le bois de chauffage.
l'hiver se ramène. Déjà plus une scène, bien-être social dans boîte à mal. La route est longue jusqu'au top. Si tu veux faire du rock'n'roll, courailler sa galère à tous les soirs. La route est longue jusqu'au top. Tu ferais mieux de rester à l'école. J'aurais dû goûter ma mère en désespoir. La route est longue jusqu'au top. Si tu veux faire du rock'n'roll, courailler sa galère à tous les soirs. La route est longue jusqu'au top. Tu ferais mieux de rester à l'école. J'aurais dû goûter ma mère en désespoir. J'aurais dû goûter ma mère en désespoir. J'aurais dû goûter ma mère en désespoir.
Alors, on vient d'entendre Ben Claveau qui nous chantait « La route est longue ». Et maintenant, Thibaut, ouais. Est-ce que notre route sera longue avec toi?
Eh bien, écoute, j'ai pas mal de stock, mais peut-être que je pourrais pas parler de tout. Mais d'abord, il faut savoir un truc, c'est que cette semaine, c'était Angoulême, le festival de bande dessinée, qui est une référence majeure dans le monde francophone, hein, parce qu'il faut le dire, la bande dessinée, évidemment, est scindée par les langues, bien qu'il y en a qui... Ça dépasse tout ça, mais toujours est-il que le Québec est arrivé en force.
Oui, avec...
Alors d'abord, il y a Julie Doucet qui a gagné donc le Grand Prix d'Angoulême, ce qui est, j'allais dire, ce qui est étonnant, mais en fait, pour moi, c'est plus que normal, mais c'est étonnant parce que c'est le vote du Grand Prix, ce sont les auteurs qui votent.
D'accord.
Donc, c'est les pairs qui votent. Et en fait, je suis agréablement surpris de voir
donc,
que...
Belle reconnaissance.
Ben, oui, d'autant plus que Julie Doucet, on ne peut pas dire que c'est... j'allais dire, c'est pas facile. C'est accessible, mais c'est pas forcément facile. Puis en même temps, c'est truculent parce que... Elle, c'est à l'université, il y a quoi, il y a 25 ans, que... peut-être un peu plus même, qu'elle a décidé comme ça de lancer un fanzine, mais sans prétention. Et là-dedans, qu'est-ce qu'elle racontait? Ses rêves, ses aventures quotidiennes... dans un style, d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle j'ai amené aussi un livre de Valium, parce que je cherchais un peu les références graphiques de Julie Doucet, à quoi ça me faisait penser. Parce que c'est assez unique comme style. Ceci dit, c'est inspiré légèrement, je dirais, par Valium. J'y vois des similitudes. Je dis inspiré par Valium, parce qu'évidemment, Valium était un peu plus vieux qu'elle, et donc était là avant elle. Bon, enfin, bref. Alors, Valium, lui, était influencé par Crumb, mais Valium est allé dans une direction totalement, comment je dirais, extrême.
Plus cru?
Surtout plus extrême. C'est-à-dire que, d'abord, c'est un travailleur infatigable, Valium, qui, malheureusement, comme tu le sais, est mort en septembre dernier. Il a le même âge que moi. C'est incompréhensible, d'ailleurs. Il est mort dans son sommeil, mais enfin, bref. Et toujours est-il...
Il n'a pas senti arriver.
Je crois pas, enfin, j'espère. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il commençait à avoir une reconnaissance, parce que Valium, le problème, c'est qu'il était tellement sans compromis qu'il se foutait de tout. Lui, il vivait dans un petit endroit, je sais pas de quoi il vivait, d'ailleurs, parce qu'il n'arrivait pas à se faire reconnaître des milieux officiels, si tu veux.
D'accord.
Parce que ce qu'il faisait, d'ailleurs, je vais vous montrer, si vous voulez voir ce que c'est Valium. Tu connais, hein?
Alors... Tu connais, toi aussi?
Non, absolument pas.
Et, bon, toujours est-il qu'on revient à Julie. Julie, c'est fantastique parce que, d'ailleurs, cette année, c'était trois femmes qui étaient en nomination pour le Grand Prix. Alors, est-ce que c'est une volonté d'Angoulême? Non, parce qu'en fait, encore une fois, c'est des votes des pairs. Donc, il y a certainement eu un entonnoir, un genre d'élimination. Et ça a amené à ces trois femmes. Je m'excuse, je ne me rappelle plus des noms des deux autres personnes. Parce que j'ai focusé sur
Julie. Je les ai lus, mais moi aussi j'ai focusé sur Julie Doucet.
Et voilà quoi, en fait. Alors maintenant, si tu as des questions. Ah oui, puis non, mais alors ça, j'ai amené ça parce que je t'ai déjà parlé de ça. Hein. Ça,
c'est Iceberg,
le, ouais, c'est le truc que j'éditais dans les années 90, qui était la suite logique de ce qu'on avait déjà édité en 84. Et je suis assez content, en fait, parce que deux fois j'ai eu la chance de publier Julie. Ça, c'est une des fois, mais ça, c'est pas grâce à moi, en fait. C'est. Parce qu'il y a, toute une école de bande dessinée au Québec, plus underground, qui, elle, est là depuis très longtemps. Donc, Julie en fait partie, mais il y a aussi Marc Tessier, il y a aussi Cyrus, qu'on surnomme Cyrus la poule. Il y a Richard Suicide, un peu plus jeune, mais qui fait partie de ce mouvement-là. Et il y a aussi, évidemment, tout un côté plus commercial. Alors, Réal Godbout, alors Paul, Michel Rabagliati. Mais en ce moment, ce qu'on voit, ce qui est assez intéressant, c'est que... aujourd'hui, tout ce beau monde-là, en fait, se retrouve un peu Il n'y a plus de, comment je dirais, je ne sais pas si dichotomie c'est le bon mot, peut-être pas. Les gens s'entendent malgré le style, quoi. Mm. Si tu veux, je n'appellerais pas ça un front commun, mais il y a une certaine fierté qu'au Québec, on soit capable maintenant de faire une bande dessinée qui intéresse d'autres gens. Ouais. Qui,
D'ailleurs, c'est ça, j'ai regardé son entrevue, Julie Doucet, quand elle reçoit le prix, et elle est très étonnée, très
surprise. Ouais, mais Julie, tu sais, c'est une fille discrète, là. Non, mais c'est la discrétion même, à la limite de la timidité.
Oui, elle répond.
Et ça ressemble
à
beaucoup d'artistes que je connais qui, dans leurs œuvres, sont très expressifs, très directs, et qui, dans la vraie vie, sont des gens à la limite de la timidité. Par exemple, je pense à mon oncle Serge en musique.
Oui.
Serge, dans la vraie vie, c'est un gars, il parle pas un mot plus haut que l'autre.
Non, mais c'est pas le cas sur scène.
Non, mais voilà, c'est un exutoire, tu vois. Et puis, ben, Julie, je pense que c'est. Je la connais pas très bien. Je la connais, évidemment, je l'ai rencontrée, mais je la connais pas de manière intime. Je veux dire, c'est pas une amie à proprement parler. C'est une connaissance, quoi. Mais elle, c'est ce qu'elle dégage, quand même. Hein,
c'est ce qu'elle a fait quand elle a répondu, quoi. Mais je veux dire, on sentait une certaine timidité.
Et d'ailleurs, elle me rappelle Claire Bretéché, un peu dans la présence.
Ah, oui.
Ouais. Oui. Et d'ailleurs. Quelque part, l'univers, il y a une certaine similitude parce que Claire Bretéché est quelqu'un qui, au-delà de la moquerie, tout ça, parle assez des choses autour d'elle, assez contemporaines, assez... Ouais. Et ce qui est extraordinaire avec Julie Doucet, c'est que...
plus sèche dans ses discours.
En fait, Julie, ce qui est très fort, et c'est là où tu vois que des fois, c'est bien d'être indépendant, c'est que aucun compromis, aucune censure. Parce qu'évidemment, elle n'avait pas... Comment je dirais, il n'y avait pas un éditeur derrière, il n'y avait pas de pognon impliqué. Donc, il y a une certaine liberté qui lui a permis de créer cette œuvre-là, qui fait que maintenant, elle est reconnue, j'allais dire mondialement, j'exagère un peu, mais elle est quand même reconnue aux États-Unis grâce à Drawn & Quarterly, qui est une maison d'édition montréalaise, qui publie essentiellement en anglais. Mais c'est intelligent parce que comme ça, ils se sont ouverts à un marché beaucoup plus gros, si tu veux. Donc, j'en reviens aussi à cette histoire de langue. Tu me coupes quand tu vois que je dépasse.
Non, mais on va y arriver, mais je te laisse encore un petit peu parler. Ouais. Je voulais juste...
C'est que, tu vois, moi, à l'époque où je faisais Iceberg, j'ai mal saisi cette affaire-là. C'est
l'ouverture vers la langue anglaise?
Oui. C'est-à-dire que c'est parce que, si tu veux, dans les années 90, c'était toute la période pré-deuxième référendum. Il y avait encore tout ce truc... où on sépare les anglos des francos, ce qui est une mauvaise attitude, en fait. Et je trouve que Drawn & Quarterly, leur intelligence, c'est d'être passé outre ça et d'avoir publié donc des auteurs francophones, d'avoir voulu faire rayonner le médium au-delà de la langue, quoi, si tu veux. Et ça, je pense que c'était le mouvement intelligent à faire.
D'accord. Est-ce que vous deux, puisque Simon est maintenant venu autour de la table, Simon Robitaille, bonjour. Toi, tu en lis souvent des BD?
J'en lisais quand j'étais petit. Malheureusement...
Pas si
longtemps
que ça.
Oui, ça fait très longtemps.
il m'a redonné le goût des BD, Thibault, quand
mais
il
c'est, c'est très drôle parce que j'ai un lien, puis ça m'a fait sourire quand tu parlais de Valium, parce que j'ai géré longtemps un artiste qui s'appelle Maxime Megra, puis on avait fait un shooting photo dans un studio d'enregistrement... de Denis Wolfe, connaissez. Puis Denis avait un genre de c'est pas une toile mais une murale que je trouvais vraiment belle puis très photogénique pour qu'est-ce qu'on voulait faire pour le shooting photo, mais sans savoir que c'était un illustrateur québécois, en fait. Et puis on prend la photo, tout ça, puis là à un moment donné je demande à Denis, j'ai dit, penses-tu que l'illustrateur nous donner, il accepterait, tu sais, que fait qu'il dit oh oui, il dit gars, je te donne son courriel là. Puis mais moi, je sais pas qui est connu, là. Moi, je pense que c'est le cousin de Denis Wolfe, là.
Ah, ouais.
Et puis, il nous a gracieusement dit « Oui, oui, il n'y a pas de problème, faites juste mettre mon crédit dans votre pochette. » Puis, je vous le montrerai hors d'onde. Vous irez voir sur... si vous faites une petite recherche là, sur Internet de Maxime McGraw, vous allez la voir. Mais c'est ça a perduré dans la musique aussi, hein, son œuvre. Au final, hein, c'est ça que ça veut dire. Ouais.
Alors, tu m'offres justement le lien qu'il me fallait, Simon, parce que dans la musique, eh ben, on y part, puisque Thibaut, en revenir faire des chroniques, c'est quand même un chanteur, donc c'est un interprète. Et là, on va entendre une de ses dernières chansons qui s'appelle « Comme un chien ».
C'est pars en chasse. Comme un chien, je ris en coin. Comme un chien, je suis fidèle. Comme un chien, je me retiens pour mieux marquer mon territoire. Comme un chien, je cours partout. Comme un chien, je ris en coin. Sauf que moi, j'y repense. Balance comme un chien, je pars en chasse. Comme un chien, je ris en coin. Comme un chien, je jaboie. Comme un chien, je suis fidèle. Sauf que moi, j'y repense.
Voilà, Thibaut de Corta comme un chien.
Et ouais.
Bravo, Thibaut.
Et ouais, merci.
Alors, on continue avec... Ah bah alors, tu nous as dit que tu allais parler de Valium et de Michel Vio.
Alors voilà, Michel Vio. Il faut que je rouvre mon... Parce qu'évidemment, j'oublie toujours un truc quand j'arrive ici.
Mais c'est bien parce que tu le fais exprès pour qu'on perde un petit peu de temps avec
voilà,
toi.
Voilà, c'est ça. Alors, Michel Vio. Michel Vio, c'est un monument, mais... C'est une, comment on appelle ça, un secret bien gardé en dehors du milieu de la bande dessinée, je crois. Ouais. Mais moi, en fait, j'ai découvert cette personne assez récemment. Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une école, enfin un cours, même plusieurs cours, en fait, de bande dessinée ou autour de la bande dessinée à l'Université du Québec en Outaouais.
Ah oui?
Et entre autres, Michel Vio a enseigné là, mais pas que lui, Réal Godbout aussi, qui fait Red Ketchup... Sylvain Lemay, je crois aussi. Jean-Dominique Leduc, je suis moins certain qu'il est journaliste, en tout cas au Journal de Montréal. Et toujours est-il que Michel Vio, c'est un gars qui a pas mal baroudé, qui a fait beaucoup de choses, qui a passé par Safarir, qui a passé par donc enseignement, qui a passé par Cheese, qui était un fanzine à l'époque aussi, par Mensuel, qui était aussi un fanzine. D'ailleurs, ce fanzine-là est celui qui a eu la plus longue durée avec plus de 100 numéros. Et Michel Vio, c'est un scénariste, entre autres, et il fait une série en ce moment qui est assez amusante. Ça s'appelle, j'ai besoin de mon téléphone, MacGuffin et Alan Smithy, avec au dessin Ghislain Duguay. Alors déjà, au point de vue dessin, c'est super maîtrisé, c'est même, c'est joyeux, c'est luxuriant, plein de couleurs. Et le thème, si tu veux, en gros, c'est un peu basé sur chapeau melon et bottes. C'est un peu un pastiche de chapeau melon et bottes de cuir.
D'accord.
Mais là où c'est pas juste ça, c'est que c'est très, très bien documenté. Alors, donc, ça se passe généralement dans les années 60. Et alors, ça fait référence à beaucoup d'événements. Comme moi, j'en ai lu un, je me rappelle plus le titre, c'est l'avant-dernier, là. qui commence en toile de fond sur une manifestation pour les droits civiques des Afro-Américains.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Ça commence...
Ouais, mais en même temps, alors voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture, et, mais c'est très accessible. C'est, on peut qualifier ça de commercial, mais dans le bon sens du terme, avec donc plusieurs couches, de plusieurs niveaux de lecture.
D'accord.
Ouais. Ça s'appelle, attends, alors c'est, je crois que c'est Opération Grande Zora, mais... ah non, c'est Summer of Love, pardon, que j'ai lu. J'avais lu avant Mission Expo 67. Là,
moi, j'ai rien lu de lui. Et toi, Simon? Non,
non moi, ça c'est malheureusement, pour la culture québécoise, ça s'est limité à Tintin.
Non, mais ça vaut la peine, dans la bande dessinée. Ça vaut la peine de découvrir, parce que c'est évident qu'à la base, il y a un préjugé défavorable envers la bande dessinée québécoise, parce qu'elle a longtemps cherché, bien qu'elle avait des classiques depuis très longtemps, là, comme Derrick Bourgeois, des trucs comme ça, mais il y a eu tellement de fanzines avec des niveaux pas forcément à la hauteur que... et puis en plus, le Québec, c'est un petit marché, ce qui fait que pour se démarquer, pour arriver à se diffuser, c'est toute une histoire. Ce qui fait que ce qui vient de se passer cette semaine, en fait, c'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine de plusieurs auteurs, de plusieurs intervenants du milieu. Puis là, ils ont de quoi être fiers, là, parce que d'abord Julie, mais il y a aussi un chroniqueur, il me semble, qui s'est fait honorer, qui a reçu, la médaille... qui a été fait chevalier, mais je ne sais plus lequel, bon, en France. Qu'est-ce que j'allais dire aussi, je ne sais plus.
Ben oui. En fait, moi, je peux dire, là, mon cerveau vient de se rallumer, en fait. Là. Et puis, j'ai lu pas mal tous les Paul, j'ai pas pensé, là, parce que okay. Pour moi, c'est même pas de la bande dessinée.
Ah, tu l'as
c'est
lu,
tellement
c'est
facile
ça, je
à
savais
lire
que je connaissais.
C'en est, là. Mais moi, c'est le premier que j'avais lu... Parce que vous faisiez des allusions à l'expo tantôt.
Ouais.
Vous deux, vous en avez parlé dans des contextes différents. Puis, il y en avait un qui justement, c'était Paul quand il était jeune. Puis là, on visitait l'expo, puis il était dans le monorail, puis tout ça. Puis moi, ça me fait rêver. J'ai un cadre qu'il y ait d'autres films sur l'histoire de Paul, là, parce qu'il y avait Paul à Québec, qui est,
Paul à Québec,
extraordinaire. Puis, ben oui.
Moi, voilà. Ouais, c'est un bon raconteur d'histoire.
Je ne le trouve pas si mal, finalement. Je connais la bande dessinée québécoise.
Ben oui. Voilà. Mais c'est pour dire qu'il y en a beaucoup à découvrir. Comme par exemple, on parlait d'un livre qui a été publié récemment qui parlait de René Lévesque. Alors ça, c'est Marc Tessier qui a écrit ça avec plusieurs dessinateurs. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, on croit connaître René Lévesque, mais avec ce livre-là, on en apprend pas mal quand même. Des pans entiers, en fait, une vie assez incroyable, René Lévesque, quand même.
Ouais. Sinon, je connaissais... tu parlais de Red Ketchup aussi, là, ça... Je vous le dis, mon cerveau bouillonne en ce moment. Mais avec les magazines Crow à l'époque, ouais, c'est là ça. Que je l'ai connu. Puis c'était.
Mais c'est ça. En fait, ce qui arrive donc aujourd'hui, c'est que c'est un peu une consécration méritée d'un travail qui se fait depuis des années, là, en fait.
Ouais. Mais à l'époque, ben, comme les bandes dessinées, comme je parlais de Tintin tout à l'heure, Tintin s'est fait connaître dans des magazines, en fait.
Ouais.
Et puis. Il y a eu une vie avant que ce soit les livres qu'on connaît. Mais c'est la même chose, là. Quand on parle de certaines bandes dessinées, tu nommais des références à Safari tout à l'heure.
Ouais.
Ben, justement, ces auteurs-là qui maintenant font des vrais livres, des vraies bandes dessinées tangibles, là, ben, ils ont commencé dans des magazines aussi.
C'est
un peu la même chose.
Tu viens de me faire penser, j'avais oublié, mais il y a une autre nouvelle incroyable cette semaine qui vient de sortir, c'est que. Tu as lu Safari, donc.
Oui.
Tu te rappelles les nombris, tu t'en souviens, les nombris.
Oui, pas sûr.
C'était par Delaf, et je ne me rappelle plus le nom de la personne qui écrivait, c'était sa conjointe de l'époque.
C'était des quatre filles?
Hein?
C'est-tu une bande dessinée jeunesse? Oui,
ben, c'était dans Safari. C'est une histoire
les nombris.
Oui, une histoire de groupe de filles.
Oui, même moi, j'ai lu ça quand j'étais
petit. C'était bien fait. Bon, ben, l'auteur, il vient de dévoiler un projet sur lequel il travaille depuis 3 ans en secret. C'est lui qui va reprendre Gaston Lagaffe.
Ah oui?
Ouais.
Très cool.
Et j'avoue, en fait, je suis partagé parce que Delaf, je trouve qu'il a un talent incroyable. Sauf que je trouve que Gaston, pour moi, c'est quelque chose quasiment d'intouchable. Mais enfin, on va laisser la chance au coureur.
Mais oui!
Mais il a le talent. C'est pas qu'il n'a pas le talent. Hein. C'est juste que Gaston, c'est tellement...
une institution.
C'est une icône de la bande dessinée franco-belge. Là, c'est quand même énorme, Gaston Lagaffe. C'est, enfin bref, on lui souhaite bonne chance quand même.
Tout peut être fait, donc on ne sait jamais. Hein. C'est vrai que toucher à Gaston Lagaffe, moi, ça me fait drôle.
Ben Gaston, c'est probablement un des rares héros de bande dessinée qui n'a jamais eu de film. Hein.
Oui.
Ah oui, il y a eu un film.
Il y a eu un film en vrai personnage?
Ouais.
Ah, okay.
Mais ça n'a pas été une réussite.
Ah, c'était pour ça.
Ouais.
Ça n'a pas eu de succès. Pas eu de succès en tout cas.
Alors, dans ce cas-là, on est peut-être mieux de dire qu'il n'y en a jamais eu.
Ouais, parce que c'est très, très dur. C'est très, très dur de mettre en film une bande dessinée. En fait, un des seuls films que j'ai vu que je trouvais réussi, c'est Astérix et Cléopâtre.
Oui, tout à fait. Ah, bah oui. Mais le Tintin de Spielberg était plutôt bon aussi.
Ah, tu vois, moi, j'ai été déçu. Ah, techniquement, ouais. C'était superbe. Mais moi, ce que j'ai pas compris, c'est la scène finale de combat entre les grues. Où c'est que tu vois ça dans Tintin? Mmh. Jamais, tu sais, t'as pas
de liberté. Hein.
Ben, c'est
ben,
ça.
Comme dans Astérix et Cléopâtre, au final.
Ouais, sauf qu'Astérix et Cléopâtre, il a respecté l'esprit de Goscinny, quand même.
Même avec les blagues et compagnie.
Ouais, ah, oui, il a respecté l'esprit un peu décalé de Goscinny. Tandis que Tintin, il a pas respecté l'esprit, d'après moi.
Mais est-ce que tu savais que, justement, les Tintins... Moi, je suis très fan de ce film-là, d'Astérix et Cléopâtre. Ouais. Mais pas du tout des autres.
Non,
de
non
la série. Et puis, en fait, c'était une idée qu'il y avait de vouloir continuer avec le même réalisateur qu'Astérix et Cléopâtre. Et la famille
de
Goscinny n'a pas voulu y trouver que ça avait manqué de respect.
Ah, pourtant, Alain Chabat, moi, je trouve qu'il a fait une réussite.
Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, mais...
Je l'adore. Et ceci dit, messieurs, merci beaucoup, mais nous arrivons à la fin de cette entrevue. Faut écouter la chanson. Une chanson. Une chanson d'une jeune Australienne qui a 15 ans. Quand on l'entend, jamais on n'imaginerait ça. Elle s'appelle Mackenzie Lee. Elle chante « Like a Bull Rider ». Alors, on y va. Alors, messieurs, parce que je dis messieurs, j'ai que des garçons ici dans le studio aujourd'hui.
Oui, madame.
Donc, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette belle entrevue. Merci beaucoup d'avoir été là. Quel bonheur d'avoir du monde en studio. Franchement, je m'en remets pas. Encore, merci, Joseph Bounen. Je te souhaite le meilleur.
Hein. Merci à toi.
Beaucoup de chansons partout. Et puis, que tu te fasses voir à travers tout le Québec, le Canada, voire même beaucoup plus loin. En tout cas, commence autour de chez toi. Merci beaucoup, Simon Robitaille, d'avoir osé parler. Thibaut de Corta, merci beaucoup.
C'est
on se retrouve le mois prochain. Merci Maurice Bolduc pour la technique et les chansons. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. On vous souhaite un excellent week-end. Et puis, je vous donne rendez-vous lundi, même heure, même endroit. Au revoir.